CO2, mon amour.
Alors, dès qu'il s'agit d'aller se dorer les miches en armorique pour demander aux filles si elles ont pas vu le cul de Lulu, alors là, oui, là, il y a des volontaires.
Non, sire, j'étais allé transmettre vos vœux à la fille du roi Oel.
Voilà. Par contre, pour se taper les accords de paix avec les Visigoths, qui c'est qu'on envoie ?
Denis Chessou.
Mais vous pouvez pas arrêter de vous bouffer le nez sans arrêt pour des conneries. Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire.
Sur France Inter.
Rien ne doit se mettre en travers de notre communauté.
Bonne année.
Bah oui, bonne année, en étant solidaire avec les autres et aussi avec le vivant. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine très très nature. C'est au-delà de mon amour, vous le savez à présent, c'est la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec Thomas Lehété, notre assistant, Henri Bérec à la technique, et c'est Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Émission de vœux. Mais auparavant, eh bien on le sait, le solstice d'hiver est franchi, la lumière remonte. Alors pour quelques minutes, on oublie tout. Une belle page blanche s'ouvre sur la table et vous savez, on la lisse du plat, comme ça, de la main. En marge, à l'encre rouge, toutes les résolutions listées sont bien écrites. Bon alors vous me direz évidemment, 2% de plus par an dans le monde de gaz à effet de serre. Désirer davantage de 5G, avoir autant de pesticides que l'année dernière, mais pulvériser à 5 mètres de chez soi. Puis tenez, apprécier les 27% de ventes de SUV en mois de décembre, en plus pour échapper au malus écologique du 1er janvier. Hein, si c'est pas de la belle écologie ça, voilà. Et puis quand même regarder le principe pollueur-payeur avec beaucoup de gentillesse et l'appliquer avec parcimonie, faute d'avoir assez d'inspecteurs. Bon alors ça c'est fait, ça c'était les vœux de l'an passé. Sage ou passage d'année, après l'an 2000 et ses terreurs millénaristes à côté de la plaque, on se réveille en 2x20. Donc là, les publicitaires et les viticulteurs vont aimer. C'est vrai que ça sonne bien, il faudrait pas que ça sonne creux. Et bah malheureusement, plage pour réfugiés du feu en Australie, là le champagne ne peut rien éteindre. Les koalas, on les a vus, se ruent sur la moindre bouteille d'eau. On racle ce qui reste de neige fraîche sur les lacs de Finlande pour sauver la reproduction des phoques annelés au bord de l'extinction. Alors en belles lettres cursives, avec des pleins et avec des déliés, et ben nous on s'applique les yeux au ciel, vous savez, un peu comme dans une photo de Douaneau, et l'enfant qui j'espère cavale toujours en vous a gardé ses rêves bleus. Sur les petits carreaux à l'encre noire, on fait le détail des opérations. Sauver l'océan, sauver les insectes, maintenir le sauvage, regarder les oiseaux, mais aussi ceux qui restent, hein, et pas seulement ceux qui disparaissent. Garder la vie et le sol, ne serait-ce que pour sauver l'homme, et surtout peut-être terrasser les dragons qui nous minent. Alors on peut se dire, bon allez, à quoi bon la retraite dans un monde à l'encan où tout est souillé, sol dévendu, mais le peuple des nous voulons des coquelicots, des colibris, des abeilles, des papillons, des associations, des citoyens, est bien là et pointe le fossé entre nos aspirations et celle du monde décidant. Aussi, dans le clair-obscur de l'époque, laissons pousser le regain des idées de notre jeunesse. Quel braquet choisir avant d'enfourcher un joli vélo tout neuf, une jolie année en même temps. Au milieu du tumulte des mots, alors éthique, transparence, durable, je vous épargne aussi les disruptifs, agiles, j'en passe et l'autre bienveillance, quelle route emprunter ? Celle qui monte vers des sommets de clairvoyante sobriété ou celle qui dévale vers un chacun pour soi, le business azoujol est tentant de faciliter. Comme Camus, il faut donner le goût de la vie, mais sans jamais mentir. Alors cette année, au cœur de cette chaudière emballée, même si c'est avant tout une formule, on est bien d'accord, ben on va tenter le 20 sur 20. Donc belle année à tous, avec tous les vœux que vous choisirez et qui vous vont bien. Donc une émission de vœux, vous l'avez compris, qui seront signés Audrey Pulvar, Jean-Claude Carrière, et aussi d'ailleurs une jeune étudiante de 22 ans. Un bol de nature tout frais, tout de suite, tout neuf. Non loin de la citadelle de Brouage, nous sommes près de Rochefort, dans 10 000 hectares, avec Jean-Marie Gilardot. Il y a intérêt quand même à prendre des bottes. Bonjour Jean-Marie Gilardot.
Bonjour Denis.
Alors Jean-Marie, vous êtes le président de l'Union des Marais de Brouage. On est en Charente-Maritime et on voulait débuter avec un petit bol de nature donc chez vous cette année. Alors vraiment petit matin du 1er janvier. Et alors nous avons quand même quelques canards. On a, ça va être des tadornes là qu'on voit là-bas.
Oui, un couple de tadornes.
Ouais. On a du cygne. On a quand même vos cigognes.
Oui, les cigognes qui commencent à arriver, les premières, donc qui vont préparer le nid. Là, ce sont les mâles qui sont arrivés, ils préparent le nid pour les femelles, ouais. Qui vont arriver 15 jours plus tard.
Bon, et donc il prépare l'habitation. Des hérons cendrés aussi?
Oui, des hérons cendrés, des hérons garde-bœufs.
Et vous n'entendrez pas de grenouilles ou de crapauds parce qu'ils sont envasés tranquillement. Hein, et
on les attend dans le printemps.
Ouais, c'est ça. Donc c'est pas avant le 15 mars, de toute façon, qu'ils vont sortir. Et alors, quels sont vos vœux sur ce sol qui est quand même extrêmement important et qu'on a totalement négligé?
Alors, le premier vœu serait et que le Parlement adopte une loi foncière ambitieuse qui déclarerait tout simplement le sol patrimoine commun de la nation, comme ça a été fait pour l'eau en 1992.
Et alors, vous-même, vous êtes issu aussi d'une famille où il y avait un grand-père qui était un peu visionnaire.
Qui était un peu visionnaire, puisque quand j'étais enfant, donc il y a maintenant une soixantaine d'années, il me disait toujours que les terres qui lui appartenaient, en réalité, il n'en était que dépositaire. Son rôle consistait à les entretenir, voire à les améliorer s'il le pouvait, mais surtout dans la perspective de les transmettre aux générations futures, afin qu'elles puissent, ces générations futures, bénéficier du potentiel des dites terres, du dit sol.
Alors, cette loi qui n'est pas encore là, mais comment ça se traduirait, on va dire, concrètement?
Ben, ça se traduirait par une distinction de la propriété, un découpage de la propriété entre ce qu'on pourrait appeler une propriété éminente, celle de la structure qui constitue le sol, qui, elle, cette propriété serait commune à tous et donc qui ne pourrait pas être détruite, et puis une propriété que l'on peut appeler, qualifier d'utile, qui serait une propriété qui permettrait l'usage, qui, lui, serait un usage privatif. D'accord. Avec éventuellement un partage de ce sol, ce qui serait une nouveauté puisque aujourd'hui on a des zonages, donc si vous voulez, il n'y a pas de partage du sol et on aurait là la possibilité d'avoir sur un même sol, on va dire, diverses fonctions qui s'exerceraient, fonctions économiques et fonctions environnementales.
Et quand on se baisse un petit peu à hauteur, on va dire, un peu de roselière, on voit les petits chemins qui ont été, on va dire, fabriqués par nos oiseaux d'eau avec leurs palmes et autres pour pouvoir se glisser et remonter de la rive jusqu'au petit canot.
Oui, et spécialement les poules d'eau. Ça, c'est des passages de poules d'eau qui vivent essentiellement dans les fossés et qui, bien entendu, ensuite, le soir, viennent s'installer sur les berges. Ouais. Et donc, elles passent toujours au même endroit.
Ok, ma poupoule, où elle est? Ah, pour y voir, là.
Et non, parce qu'elle nous a entendus arriver, et ça, hein. À l'évidence, elle est allée se cacher de l'autre côté du fossé, dans la haie que l'on voit là-bas.
Et elle se fiche que ce soit le 1er janvier, hein, le passage de l'année, à mon avis.
Ça ne l'a pas trop tracassé.
Jean-Marie Gilardeau, des vœux pour le sol, mais aussi des vœux pour l'eau, la biodiversité et donc ces paysages.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, faut bien reconnaître qu'on avait des démarches en la matière essentiellement descendantes, c'est-à-dire que tout venait d'en haut, clairement des ministères, et la solution serait de le vœu, et que on remplace ça par une démarche ascendante, locale. C'est-à-dire locale, fondée sur des projets de territoire qui associeraient l'ensemble des partenaires locaux, à savoir les services de l'État, les établissements publics, mais aussi tous les acteurs économiques, sociaux, environnementaux et culturels.
Associatifs et citoyens. Quoi,
voilà, tout à fait.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on ne peut pas plaquer maintenant en permanence, comme ça a été fait de manière régalienne, des lois qui vont tomber d'en haut.
Qui tombent d'en haut et qui sont inadaptées au territoire. Alors, sans doute, il faut un socle commun.
Hein,
il
ne
faut pas supprimer. Mais ce socle commun doit être ensuite adapté aux spécificités locales, puisque les territoires sont tous différents. Il suffit de prendre les territoires de montagne et les territoires humides pour s'apercevoir qu'ils n'ont pas les mêmes besoins.
Jean-Marie Gilardeau, depuis que vous êtes tout petit, parce que vous avez été emmené là par vos grands-parents, donc vous ne faisiez pas tellement la différence entre l'humain, le végétal, l'animal, tout ça allait à peu près main dans la main.
Ah ben tout à fait, tout ça formait un tout, d'autant que j'ai été élevé effectivement au lait de cette unité, ouais. Qui malheureusement ensuite a été oubliée pour des considérations souvent purement économiques, hein. Mais que l'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui occupaient le marais, je pense principalement aux éleveurs, et qui pendant longtemps avaient une certaine honte parce que ils étaient ceux qui étaient éloignés du progrès de la société telle qu'elle fonctionnait, retrouvent aujourd'hui une certaine fierté, ouais. D'avoir pendant deux siècles, puisque c'est il y a deux siècles que ce marais a été construit par l'homme, l'avoir entretenu et pouvoir justement l'offrir à tous ceux qui aujourd'hui viennent plaine, s'y reposer, s'y promener et observer les paysages fantastiques qu'on a sous les yeux.
Et à leurs petits-enfants demain. Donc voilà. Soyez fiers d'être maraîchins aujourd'hui.
C'est notre slogan.
Merci à vous Jean-Marie Gilardeau. Alors évidemment, si les poules d'eau, les vanneaux, les cygnes, les canards, les cigognes étaient bien là, on n'a pas résisté à la tentation de rajouter des petits passereaux. Oui, ouais, parce qu'on s'est dit ça va faire venir le printemps. Voilà, c'était le petit cadeau donc en plus. Je tenais aussi d'ailleurs à saluer le travail quand même de deux élus, Frédéric Tufnel et Jérôme Bignon, qui travaillent énormément sur ce sujet de façon très positive sur les zones humides. On continue nos vœux dans quelques instants avec Audrey Pulvar et Jean-Claude Carrière. Après qui ? Oh bon, on le connaît.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le réveil sonne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Quelle bête.
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi, ce que vous avez compris, le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu pars avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
Ah bah là aussi il y a des passereaux quand même chez Catherine. Voilà, c'était donc Bonhomme.
CO2 mon amour.
Et nous voilà prêts à saluer avec vous ce nouvel an dont nous sommes tous si proches et en direct.
Avec Denis Chessou.
Place aux réjouissances et à l'allégresse.
Sur France Inter.
Et youpi, et oui, vive l'allégresse. Au de mon amour, donc bien sûr France Inter, avec Audrey Pulvar, donc journaliste que vous connaissez, récente ancienne présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et femme de terrain, engagée, parole vive, on y va.
Bah déjà 2020, c'est un peu un chiffre magique. Hein. 2020, ça donne envie, on termine une décennie, on en commence une nouvelle, alors on va prendre les choses déjà du bon côté en se disant que ce serait quand même super, et ça fait partie de mes vœux, si en cette année 2020, cette nouvelle décennie qui s'ouvre, il y avait une prise de conscience vraiment très profonde, non seulement de la part des populations, mais je crois qu'elles sont déjà très très conscientes et que parmi les citoyennes et les citoyens, de plus en plus de monde est conscient de l'urgence climatique et qu'il y a de gros efforts à mener pour y faire face. Mais j'aimerais que cette prise de conscience remonte jusqu'à au cerveau de nos dirigeants et qu'ils en tiennent compte pour faire de l'écologie et de la transition écologique et solidaire non seulement une partie de leur politique publique, mais vraiment le socle de l'ensemble de leur politique publique. Moi, vraiment, c'est...
Et de façon transversale.
Qu'on arrête de penser que l'écologie, c'est une partie de la politique. L'écologie, c'est une question de sécurité intérieure, de santé publique, d'agriculture, d'alimentation, d'alimentation, de transport, d'aménagement du territoire. C'est une question d'énergie, quel type d'énergie on utilise et comment. C'est une question de sécurité intérieure et extérieure également. C'est une question de justice. Hein. On parle de plus en plus de justice climatique. C'est évidemment une question de droit commercial international. C'est aussi une question d'éducation. C'est même une question de culture. Donc vous voyez un peu tous les sujets. Évidemment, une question d'industrie aussi. Quel type d'industrie on promeut, comment on organise la transition dans celles dans lesquelles des emplois vont disparaître du fait de la prise de responsabilité face à l'urgence climatique. Moi, je parle souvent d'inverser le prisme, c'est-à-dire au lieu de se dire on va d'abord régler les problèmes urgents, chômage, sécurité, santé, etc., et ensuite s'occuper d'écologie, se dire que c'est en prenant la mesure de l'urgence climatique et en mettant vraiment en place une transition écologique et solidaire partout, qu'on résout les problèmes qu'on considère comme les plus immédiats. Parce que la transition écologique crée de l'emploi non délocalisable, de la solidarité, du lien social, etc. Donc moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que non seulement pour 2020, mais pour cette décennie qui s'ouvre, nos dirigeants soient aussi conscients que les populations elles-mêmes de l'urgence climatique et de la transformation très profonde à mettre en œuvre pour y faire face.
Alors Audrey Pulvar, il y a quand même aussi un bout d'espoir, ça passe par la jeunesse. On ne peut pas tout non plus déléguer en permanence.
Non,
il ne faut pas rêver non plus, c'est-à-dire que tous les jeunes ne sont pas forcément passionnés par l'environnement. Hein, mais de ce côté-là, ça bouge et ils interpellent.
J'ai été évidemment très emballée depuis 2 ans par ce mouvement mondial de la jeunesse pour l'écologie, cette interpellation très forte des jeunes à notre égard et nous leur devons des comptes, ils ont raison de nous en demander et je soutiens évidemment de toutes mes forces à l'action de Greta Thunberg comme de tous ces jeunes qui se mobilisent dans le monde entier. Au lieu d'être là à critiquer cette adolescente qui prend son destin en main, qui soulève les foules, qui nous interpelle, on devrait se poser la question du contenu de son interpellation et avoir honte pour beaucoup d'entre nous de la planète dans l'état dans lequel nous la laissons à nos enfants. Donc j'espère que ce mouvement mondial de la jeunesse va continuer, va s'ancrer sans forcément basculer dans ce qu'on appelle maintenant la solastalgie, c'est-à-dire cette espèce de neurasthénie vis-à-vis du climat, sans sombrer non plus dans les actions violentes parce que c'est une tentation et parfois, on peut se dire qu'on peut entendre cette revendication violente d'une partie de la jeunesse sans forcément la comprendre ou la cautionner. J'espère que cette jeunesse restera mobilisée. J'espère que les adultes que nous sommes et qui les écoutons vont se bouger un peu et se responsabiliser. Moi, je préfère parler de responsabiliser les gens que de les culpabiliser. Nous sommes tous responsables avec un degré de responsabilité différent. Et on sait que le réchauffement climatique, c'est d'abord une affaire d'inégalité. C'est pour ça que, parmi mes vœux aussi, j'aimerais qu'on en finisse avec un certain nombre d'idées reçues, qu'on arrête avec l'expression écologie punitive, parce que c'est pas l'écologie qui est punitive, c'est la non-écologie qui est punitive. C'est le fait de ne pas faire face à l'urgence climatique qui continue de précariser des gens qui sont déjà précaires, qui continue d'amplifier des inégalités qui sont déjà scandaleuses. Et ce sont les plus démunis dans le monde entier qui paient le plus lourd tribut à la question de l'urgence climatique et de l'effondrement de la biodiversité, alors qu'ils en sont les moins responsables.
Ce qui est tout à fait punitif, c'est ce monde complètement dément, mais que l'on a aussi plus ou moins souhaité, qui fait que ce qu'on appelle les externalités,
bien sûr,
toutes les pollutions diverses et variées, continuent et ne sont pas ni taxées, ni punies, etc.
C'est pas aux auditeurs de CO2 mon amour que je l'apprendrai, mais enfin quand même, on sait que la question des émissions de gaz à effet de serre, c'est avant tout une question de pouvoir d'achat. C'est-à-dire plus vous avez du pouvoir d'achat, plus vous émettez des gaz à effet de serre. Alors après, parmi ceux qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, il y en a qui font des efforts, mais malgré tout, je vais prendre mon cas, parce qu'on me dit souvent, oui, mais vous parlez, vous faites la leçon. Moi, je fais énormément d'efforts depuis longtemps, depuis des années, je fais énormément d'efforts pour réduire mon empreinte écologique. Mais je sais que, du simple fait de mon pouvoir d'achat, j'ai une empreinte quand même plus forte que quelqu'un qui fera moins d'efforts peut-être au quotidien, mais qui a une vie dans laquelle il ou elle fait face à plus de pénuries que moi. Donc, et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, encore une fois, pas pour forcément culpabiliser, mais pour responsabiliser les gens. D'abord, déculpabiliser ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, tout en bas de l'échelle des revenus, et qui sont encore une fois les moins responsables, que ce soit à l'échelle de la France, que ce soit à l'échelle du monde, et les plus atteints par les effets de l'urgence climatique. Mais aussi, il faut avoir ça présent à l'esprit, parce que ça, il ne suffit pas de trier ses déchets, il ne suffit pas de moins prendre l'avion, il ne suffit pas de moins manger de viande, si on continue à acheter autant de textiles et de textiles importés, si on continue à avoir un régime alimentaire qui a des conséquences sur le reste du monde. Donc, il faut vraiment que chacun d'entre nous se pose la question de la réalité de son empreinte. Les efforts que nous devons faire, ils sont tellement importants, tellement profonds dans les changements de vie, que parfois ça donne le vertige.
Et c'est ce qui ne se dit pas d'ailleurs.
Mais oui,
diviser vraiment par 4 ou 5 nos émissions de gaz à effet de serre, c'est un changement mais total de société. Et alors, comment effectivement arriver à réunir à la fois, j'ai dit géographiquement, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et puis dans notre cerveau, notre hémisphère droit et notre hémisphère gauche.
Je crois qu'il faut vraiment arriver à voir ça de façon positive. Alors moi, je ne suis pas du genre à dire oui, l'écologie souriante, etc. Il faut dire la vérité aux gens. Oui. La situation, elle est déjà tragique, on le sait. Le mode de vie que nous devons changer, c'est quelque chose qui peut paraître dépasser l'entendement, qui est très profond et qui va nous demander à chacun d'entre nous une très, 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 très vaste remise en question. Donc ça, c'est difficile. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin,
on arrive quand même à vivre
plus nombreux,
un peu ensemble.
À aller mieux. Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas l'apocalypse à la fin. Non. L'idée, c'est à la fin que il y ait évidemment plus de partage, moins d'inégalités, plus de liens sociaux, plus de soins, d'empathie envers l'autre et envers le vivant en général. Puisque l'autre, c'est pas seulement l'autre humain, c'est aussi l'autre vivant, l'autre plante, l'autre animal, l'insecte, etc. Que nous soyons plus en harmonie avec le vivant, plus en harmonie avec la biodiversité, plus en harmonie avec nous-mêmes, et encore une fois, dans plus de partage, plus de liens sociaux. L'idée à la fin, c'est qu'un plus grand nombre possible de personnes aillent mieux.
Merci à vous, Audrey Pulvar. Si on peut éviter soleil vert, ce serait pas plus mal. Jean-Claude Carrière, autre génération, homme de l'Hérault, de Colombières-sur-Orbe, qui pense tous les jours à ses origines paysannes et qui sait que notre Terre est rien au cœur des galaxies, mais un rien génial. Alors face à nous, on a un homme qui sait labourer avec un cheval, couper, semer, replanter, cueillir des truites à la main dans la rivière. Et puis son dernier livre s'appelle Atelier aux éditions Odile Jacob. J'en dis un mot parce qu'en fait, il nous dit comment sont fabriqués Viva Maria, Borsalino, le Mahabharata, enfin en tout cas son adaptation, Le Retour de Martin Guerre, Belle de Jour. Donc c'est les coulisses de travail de Carrière avec ses différents metteurs en scène. Je l'ai rencontré chez lui, sage et aussi révolté. Bonjour Jean-Claude Carrière.
Bonjour Denis.
Alors Jean-Claude Carrière, vous êtes quand même, pour ces vœux de l'environnement, une des personnes qui a été le plus au point et le plus en avance sur ces sujets dans les années 60.
J'étais, oui, un des compagnons de René Dumont, de Brice Lalonde, cette bande-là. En 70, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le Paris, où tout de quoi nous parlons aujourd'hui était déjà dans ce livre. C'est-à-dire, c'était quelque chose que on voulait délibérément ignorer. Ce n'était pas par méchanceté. C'était simplement que nous en étions encore dans les 30 glorieuses. Nous dominions la planète, la Terre était à nous. On parlait beaucoup de exploitation, de rendement, de profit. Et on était quelques-uns, mais très très rares, à prévoir qu'il y aurait une suite peut-être tragique.
Et qu'est-ce qui vous plaisait, entre guillemets, dans cette idée quand même d'environnement? Parce que vous aviez donc cette intuition, mais aussi qui commençait à être étayée doucement par la science.
Il suffit d'un petit carré de terre, si on l'observe bien, pour voir les changements. À partir des années 50, de l'introduction des pesticides, j'ai vu changer le paysage sur quelques kilomètres carrés.
Alors Jean-Claude Carrière, vous avez avec votre épouse et aussi votre belle-mère traduit donc ce poète mystique que vous appelez Rumi. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir le sentiment d'amour qui englobe quasiment tout. et qui permet aussi peut-être d'aimer la nature, l'environnement au sens large, différemment.
Pour répondre aux questions que vous posez, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'est pas à sa place. Il faut avoir une vision du monde en général et plus large que la nôtre. C'est-à-dire que lui parle de la prairie des anges. Et une vision aussi d'amour, un sentiment d'amour qui englobe tout. C'est-à-dire que si on est possédé par l'amour, on ne peut qu'aimer. Et on ne peut que tout aimer. Rien dans l'univers créé n'est haïssable. Rien n'est méprisable et il ne faut rien détruire.
Donc le végétal, l'animal, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi l'univers, les étoiles, les constellations.
Oui, bien sûr, mais nous n'avons pour l'instant aucun pouvoir sur la destruction des constellations. Ça viendra peut-être, hein, au train où ça va.
Ouais. Ça veut donc dire qu'en fait, cet amour-là unit, et s'il n'existe pas, il désunit ce qui est autour de nous.
C'est comme des fibres qui se joignent les unes aux autres et qui sont indissolubles. C'est l'amour. L'amour, c'est ça. C'est ce sentiment-là. Il faut faire très attention que la haine existe aussi sous cette forme. Quelquefois, je me dis, quand je vois la haine qui ravage les djihadistes ou autres aujourd'hui, qui fait que tout à coup, on tire sur 200 femmes quelque part en Afrique pour les éliminer, je me dis, qu'est-ce qui fait la cohésion de ce groupe de haine?
L'être humain, à la fois dans son côté génial technologique, mais aussi sa folie technologique, est de moins en moins capable d'être autonome, comme vous l'étiez, vous. Vous êtes né dans une autonomie.
C'était l'autonomie qu'on appelait de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe est un type d'homme extraordinaire parce qu'il sait tout faire. Il sait faire de la poterie, il sait faire de l'agriculture, il sait pêcher, il sait tout faire. Jeter Robinson Crusoe aujourd'hui sur une île déserte, il est fichu. Il est foutu, il ne tiendra pas 8 jours. Qu'est-ce qu'il va manger? Comment va-t-il pêcher? Comment va-t-il... Oui, peut-être un peu plus de 8 jours. Il mangera des fruits, il mangera un peu d'herbe, mais ça n'ira pas très loin.
Et ça va être ça, peut-être une des clés de demain, c'est d'arriver de nouveau à comprendre, à commencer par le sol, qui est quand même la clé fondamentale de tout.
Ce qui me scandalise le plus en ce moment, c'est ce qu'on fait au sol. Peut-être parce que j'en viens, parce que j'ai encore mes pieds trempés dans la glaive. Je suis un petit paysan. Mais ce qu'on fait partout, comment on traite le sol, les produits qu'on y met, les forêts qu'on abat, qu'on brûle, tout ça pour faire du soja, pour augmenter le rendement de la production de viande, cette viande dont on commence à nous dire qu'elle nous est mauvaise pour la santé, etc. Tout cela m'épouvante. Bon, j'ai 88 ans, je ne verrai pas la catastrophe, mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, qui eux, non seulement la verront, mais la vivront, et qui auront à lutter contre ça.
Alors Jean-Claude Carrière, vous avez eu cette chance, mais vous l'êtes créé, de donner un sens à votre vie. Même peut-être dès l'enfance, sans le savoir, l'adolescence, et après, vous êtes devenu donc ce magicien des mots, vous nous avez emmené, vous êtes un passeur d'histoire absolument incroyable. Mais qu'est-ce que la vie vous a appris?
Je ne crois pas que la vie, telle que vous la présentez, soit un professeur. Le fait de vivre, oui. C'est-à-dire le fait de vivre les difficultés de la vie, la difficulté de la vie des autres, le regard que l'on peut porter sur ceux qui sont plus démunis, plus pauvres, voire plus misérables que vous, tout cela, oui. La vie elle-même n'existe pas. Pas plus que le temps, pas plus que... Bon, la vie, c'est un moment. Mais ce que la vie m'a appris, c'est que elle m'a appris à vivre. Elle m'a appris une chose très simple que j'ai réalisée vers mes 45-50 ans. Vis maintenant, parce que plus tard, tu ne pourras plus.
Alors, juste terminer avec la question de début, on va dire, c'est quels seraient vos vœux pour peut-être l'humanité, pour la planète, en 2020, tout en sachant toute la limite de la question et la réalisation derrière?
Ce ne sont que des vœux parce que je suis d'un naturel très pessimiste en ce qui concerne les 30 prochaines années. Mais mes voeux seraient, et j'en parle avec mes plus jeunes enfants ou petits-enfants, que cette génération prenne conscience le plus tôt possible qu'un immense combat est à mener, un immense combat non seulement contre les forces de l'argent qui nous dominent, nous oppriment et ne voient qu'à courte vue, mais un combat contre eux-mêmes.
Merci à vous Jean-Claude Carrière. Moi je vous renvoie donc à cet ouvrage Atelier, hein, 65 ans de travail, de scénarios, de pièces et de livres qui sont donc bien consignés. Il parlait de jeunesse, ça tombe bien puisque Julie Pasquet, 22 ans, étudiante, nous attend. Ce sera juste après Alani, rien à voir avec les sucettes, non, excellente chanteuse londonienne. Interprétait papa.
C'est peut-être pour demain le grand feu d'artifice, le bouquet final. Un spectacle enfin digne de l'univers.
CO2, mon amour.
Inutile de retenir vos places, vous serez tous en première loge.
Sur France Inter.
Demain, la fin du monde. Oubliez vos fins de mois. Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras en beauté.
Denis Chessou.
Ouais, alors c'est pas pour demain, c'est peut-être pour après-demain, on verra ça. Bonjour Julie Pasquet.
Bonjour Denis.
Alors Julie, vous êtes étudiante de 22 ans, vous êtes à Sciences Po Toulouse, vous étiez aussi à TBS, c'est-à-dire Toulouse Business School, et vous êtes surtout engagée depuis de nombreuses années dans les associations étudiantes écolo. Vous êtes aujourd'hui en stage au cabinet Utopie d'Elisabeth Laville, donc c'est plutôt une bonne formation. Et comme vous étiez déjà intervenu plusieurs fois dans cette émission, moi j'avais envie d'avoir vos vœux. Allez, 2019 s'achève, 2020 et là, quels sont vos vœux?
Mais comme vous l'avez dit, Denis, 2019 s'achève. Vous le savez, ça a été une année qui a été marquée par une mobilisation sans précédent de la jeunesse pour le climat. C'était une année très militante, très engagée et qui a représenté un peu l'éclosion d'un véritable combat pour nous les jeunes, pour notre futur et notre avenir. Donc si 2019 était un début, je dirais que 2020 sera la suite de l'histoire. Mmh. Donc en ce début d'année 2020, moi je souhaite à tous ceux et celles qui se sont déjà engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour une véritable transition écologique et sociale, de ne pas baisser les bras. Surtout, enfin, continuons ensemble cette lutte en nous rassemblant, en nous unissant et en portant vraiment haut et fort les valeurs fortes telles que la solidarité, la résilience ou la justice. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore choisi leur combat, je les invite à s'engager de manière forte et à faire vivre leur engagement parce que c'est quelque chose qui donne du sens à la vie.
Et puis de le faire aussi collectivement, hein.
Exactement, c'est ça. Je souhaite aussi vraiment à toute personne d'apprendre à travailler en collectif, à chercher l'entraide et la solidarité parce qu'on en a énormément besoin dans notre monde aujourd'hui.
Et puis on a aussi peut-être un petit peu besoin, Julie, quand même, de prendre du temps pour soi.
Exactement. Et je pense qu'il faut vraiment, dans ce monde qu'on a aujourd'hui, qui est si rapide, si connecté, il faut apprendre à prendre soin de soi et aussi à prendre soin des autres et des personnes qui nous entourent.
Et alors, en ce début 2020, donc se reconnecter quand même aussi avec la biodiversité, avec la nature.
Évidemment, on a tous quelque chose à apprendre, surtout des écosystèmes qui nous entourent, de la biodiversité, de la beauté de nos paysages, et il faut aussi apprendre à redécouvrir la beauté de notre monde.
Bon, en fait, c'est un peu un hommage à la vie, hein, que vous nous faites, là.
Ben oui, bien sûr. Je vous souhaite aussi en 2020 de profiter de la vie, des petits plaisirs du quotidien, des grandes, des petites victoires, des sourires, des rires, des ondes positives. Il faut en effet vivre 2020 à fond.
Alors, il y a l'indignation qui était chère donc à Stéphane Hessel, mais il savait que c'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a aussi donc l'engagement, quoi.
Donc oui, moi j'ai envie de vous dire en effet indignez-vous, mais aussi engagez-vous, réveillez-vous et rejoignez-nous, puisque chaque année compte et chaque mobilisation compte aussi, chaque engagement compte. Donc en 2020, nous comptons bien faire bouger les lignes encore plus et on ne lâchera rien en 2020.
Écoutez, merci à vous et pour l'ensemble de la jeunesse à la fois qui nous écoute, celle qui nous écoute pas, peu importe, parce que c'est quand même vous qui allez hériter de cette affaire-là et qui allez sûrement la faire évoluer. Grand merci à vous Julie Pasquet, puis à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Et le dernier mot de l'environnement à Jacques Bonafé.
Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit au milieu des étoiles. Oscar Wilde.
Ça sent la fin de l'émission. Merci à Henri Bérec, à Thomas Lehété et Jérôme Boulet qui a réalisé cette émission. Le Twitter, tout simplement, Denis Chessou. La semaine prochaine, nous serons avec Jean-Michel Bertrand en reportage cinéaste de Marche avec les loups. Vous allez voir, ça va se prendre un joli moment, je pense. Je vous retrouve aujourd'hui à 19h54 pour l'actu du Mon Petit Loup. Je vous souhaite un très bon dimanche et encore une belle année à tous.